Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Mathieu Bock-Côté.
Il représente un segment très important de l'opinion publique.
Richard Martineau.
Tu vis sur quelle planète?
La Rencontre.
Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
C'est hallucinant.
La Rencontre. Bock-Côté. Martineau.
Mathieu, il n'y en aura pas de facile pour Éric Zemmour parce qu'il va avoir vraiment les antifas collés au cul. Excuse-moi l'expression.
Ouais. Ben, en fait, ça fait quelques semaines déjà que ça dure. Et ça s'est intensifié récemment. C'est-à-dire, on le sait, Zemmour a fait, qui est le candidat qui... pour plusieurs chamboule tout, hein, qu'on soit d'accord avec lui, est assez secondaire ici. Donc, il est apparu dans le paysage politique, clairement, depuis quelques mois. Il a imposé ses thèmes dans la campagne présidentielle française. Dimanche, il a fait son premier grand rassemblement. Et ce qu'on voit, c'est que les groupuscules d'extrême-gauche, l'extrême-gauche violente, la antifa, donc ils prétendent être antifascistes, mais dans les faits, pour eux, je dirais, le fascisme commence à la droite du centre-gauche. Ils font de harcèlement systématique de ces meetings, de ces événements, de ces rencontres, des différents lieux, et notamment celui de dimanche dernier, avec l'intention explicite, c'était le slogan « Faire taire Zemmour ».« Faire taire Zemmour ». Et ensuite, on a vu, quand les services de sécurité ont arrêté certains d'entre eux qui voulaient pénétrer sur les lieux, et il y a eu, ils ont trouvé des cocktails Molotov, des barres de fer, différents types d'armes comme ça. Alors quand on parle, puisqu'on a beaucoup parlé des violences au meeting de Zemmour depuis dimanche, et ce qu'on a oublié de dire, c'est que si effectivement, c'est absolument condamnable, il y a quelques dizaines de types de la vraie extrême droite, là, la plus violente, la plus bête, qui s'était infiltrée dans le meeting, sur le fond des choses, la violence domine véritablement dans la campagne française pour l'instant, c'est cette extrême-gauche violente, cette extrême-gauche antifa, cette extrême-gauche encagoulée, cette extrême-gauche qui veut empêcher un candidat et même d'autres de faire campagne. Et ce qui me fascine, c'est l'espèce de complaisance médiatique et politique à l'endroit de cette extrême-gauche. Alors, si tout le monde dénonce avec raison, évidemment, la violence de l'extrême-droite quand on la voit, il y a une forme d'étonnant silence quand on parle de la violence de l'extrême-gauche. Et il faut poser la question directement aux politiques, puis je suis dans la position de leur poser parce que je suis dans une équipe d'intervieweurs là-dessus, le dimanche puis d'autres jours. Il faut leur poser la question pour leur demander, quand ils disent on condamne la violence, ils condamnent toujours la violence dite de l'extrême droite, mais la violence d'extrême gauche, il faut toujours les pousser pour savoir s'ils vont la condamner ou si. On a vu que Zemmour était attaqué dans son événement, on ne sait pas exactement le détail de l'histoire jusqu'à présent, et bien ça, plus ou moins d'indignation. Donc moi, ce qui me fascine en ce moment, quand je regarde cette campagne, j'ai l'impression, honnêtement, c'est comme si, finalement, c'est un rassemblement du Parti québécois qui était couvert par la Gazette, c'est-à-dire le grand écart entre ce qui se passe et la manière dont on raconte. La violence de l'extrême-gauche est neutralisée, laissée de côté, comme si elle ne comptait pas. Puis en dernière instance, du rassemblement de dimanche qui a eu lieu, où Zemmour a fait son premier discours de campagne, plus d'une heure de discours, et ainsi de suite, devant 15 000 personnes, un discours assez fort, qu'on soit d'accord ou non, on n'est pas là. On disait que ce n'était pas un homme doué pour le discours, pour les conférences, qu'il n'était pas doué pour faire des discours politiques. Manifestement, il a réussi son premier vrai discours. Mais de tout cela, on tend à parler bien peu, parce que on ne parle finalement que des violences qui ont été intégrées dans le meeting. Je donne un dernier élément qui compte là-dedans. Il y a aussi eu des militants d'un groupe de gauche assez radical qui prétendaient lutter contre le racisme, qui surveillent. Et là, il y a effectivement, c'est là que des gens d'extrême droite leur ont tapé dessus. Mais on a retenu que ça. Alors, c'était absolument condamnable, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais dans le portrait d'ensemble, ce qui était l'événement central, c'est un événement démocratique dans une campagne, un courant de pensée qui s'exprime, un courant politique qui transforme, un candidat qui s'exprime. Tout ça est marginalisé et on oublie l'élément central, c'est la violence de l'extrême-gauche qui cherche à polluer une campagne. Ça me fascine la manière dont on parle de cette campagne jusqu'à présent.
Ce que ces gens-là vont te répondre, et tu le sais fort bien, c'est que Zemmour est violent aussi, mais c'est une violence verbale. C'est ça qu'ils vont dire, qui justifie notre violence à nous.
Alors moi, ce que je sais, c'est que dans cette journée-là, il y a Jean-Luc Mélenchon qui faisait aussi un rassemblement de campagne et qui a qualifié Zemmour d'ennemi du genre humain. Alors moi, la violence en question, premièrement, moi franchement, entre un mot et un coup de poing, je sais identifier la violence. C'est le coup de poing. Et prendre prétexte des discours de Zemmour qui peuvent être très très musclés, peuvent aller trop loin, on peut être en désaccord avec absolument tout, c'est pas la question. Et prendre prétexte de ça pour justifier un harcèlement antidémocratique, un harcèlement de ministres d'extrême gauche, moi j'essaie de me dire, autrement dit, l'agresser devient l'agresseur à cause de ses paroles. Donc en gros, s'il mange des coups sur la gueule, si on l'attaque, si on cherche à perturber ses meetings, c'est de sa faute. Moi, je m'excuse, mais dans une vie politique démocratique, eh bien la gauche, la droite, le centre ont le droit d'organiser leurs événements sans qu'on cherche à les troubler. Le gauche, la droite, le centre ont le droit d'avoir leur d'exprimer leurs idées, et puis on ne combat pas avec des barres de fer, on combat pas avec des cocktails Molotov, avec des pots d'acide, des flacons d'acide, on ne combat pas comme ça les idées. C'est-à-dire, fondamentalement, c'est en plus, moi, c'est le deux poids deux mesures qui me fascine là-dedans. Imaginons que des militants de l'équivalent à droite de SOS raciste, donc des gens des mouvements identitaires, s'il s'était présenté au rassemblement de Jean-Luc Mélenchon et avait cherché à troubler les événements en disant Zemmour. Eh bien, Mélenchon, plutôt, on aurait dit, mais c'est une provocation d'extrême droite, puis on aurait presque excusé les services de sécurité qui les auraient expulsés. Mais là, puisque la provocation venait de la gauche dure, eh bien, on l'a relativisé, on a dit que ça compte pas, et ainsi de suite. Et là, moi, je me dis, mais l'instant, ça ne tient pas la route, là. Ça ne tient pas la route. Il y a des principes de base à rappeler. La violence est toujours condamnable sans la moindre nuance. Hélas, le deux poids deux mesures fait en sorte que plusieurs sont incapables de condamner la violence de quel que soit le bord dont elle s'exprime. Puis à terme, c'est la vie démocratique qui est pervertie à travers tout ça. Mais en démocratie, c'est quand même des projets conflictuels qui s'affrontent par le langage, par les idées, par les tribunes, pas des gens qui se tapent sur la gueule.
Mais la tactique des intifas va peut-être fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui seraient peut-être tentés de voter Zemmour parce qu'ils sont d'accord avec ses idées et qui vont dire « Ah, ça serait trop de trouble, vraiment, s'il devient président, il va avoir des meute et ça va être violent. Non. Je voterai pas pour lui.
Oui, mais en fait, c'est surtout, ça fonctionne sur deux registres, au-delà même du vote. Quand on fréquente un peu cette ville, il y a quelques semaines, c'est fascinant, des gens, disons, associés à la droite classique disaient, c'est intéressant, on va voir ce qui se passe, voyons cette campagne. Là, il y a une campagne de diabolisation assez fascinante à l'endroit de Zemmour. On le présente comme un fasciste, l'extrême droite, un raciste, un pétainiste, toutes les insultes disponibles. On l'a même traité de négationniste, qui est quand même assez fou. Donc, on a fait tout ça. Donc, l'effet de la diabolisation, c'est que le coût social, le prix social à payer pour marquer une adhésion même minimale à certains de ses constats ou de ses propositions, c'est trop élevé. Ce qu'on risque alors, c'est le bannissement social, le bannissement professionnel, le bannissement médiatique. Premier élément. Deuxième élément, effectivement, ça crée une aura d'infréquentabilité. Ça transforme un candidat, comme je dis, tout à fait critiquable, la question n'est pas là pour moi, mais ça transforme un candidat critiquable en infréquentable absolu qu'il n'est plus possible d'intégrer dans le périmètre de la délibération démocratique. Et à travers cela, il y a une forme de bombardement médiatique et symbolique contre tous les thèmes qui sont les siens, les électeurs qui s'y reconnaissent, les fragments de la population qui y adhèrent. Donc, on en vient à troubler le jeu démocratique à travers tout ça. Donc oui, la diabolisation fonctionne, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, je le vois à l'international, l'image qui en est faite, finalement, c'est globalement, c'est rendu le candidat violent. Et là, on se dit, mais un instant, c'est lui qui se fait agresser, c'est son meeting qui se fait agresser, et finalement, c'est lui le candidat violent. Il y a une forme d'inversion de la responsabilité. Et là, je le redis, ce n'est pas pour relativiser le fait qu'il y avait une dizaine, effectivement, de nervis d'extrême droite, de la vraie, qui étaient là. Il y a un instant, c'était 10, 15 personnes, 20 personnes à la rigueur sur 15 000. Mais on va oublier le discours, la mobilisation, les dernières semaines et tout ça pour mettre l'accent là-dessus. On appelait ça une forme de production médiatique de fake news par sélection des faits et oblitération d'autres. Alors, une fois que tout ça est dit, moi, je pense que dans la politique française, en ce moment, Il y a plusieurs candidats. Il y a Zemmour, il y a Marine Le Pen, il y a Valérie Pécresse qui vient d'être choisie comme candidat de la droite des Républicains. Il y a Macron, il y a Hidalgo, il y a Mélenchon, il y a Jadot, il y a plein de choix. Mais pour que le choix soit pensable, il faut éviter de penser de l'un d'entre eux sur la catégorie du monstre, et c'est ce qui nous échappe en ce moment.
Écoute, la droite traditionnelle, tu l'as dit, un nouveau chef, c'est Valérie Pécresse, c'est son nouveau chef. Est-ce que ça se peut que, finalement, Zemmour aide beaucoup sa campagne? C'est-à-dire que Zemmour va se permettre de dire des choses qu'elle ne peut pas dire, parce qu'elle est beaucoup plus centriste, par exemple. Et là, il y a des gens qui vont dire, je suis d'accord avec ce que Zemmour dit, mais je le trouve trop radical, donc je vais voter pour Mme Pécresse. Est-ce qu'il est en train de faire campagne involontairement pour elle?
En fait, l'effet est double. C'est-à-dire que Zemmour a imposé des thèmes dans la campagne en ce moment. Donc, la question de l'identité, la survie du peuple français, l'insécurité, l'immigration. Bon. Celle qui profite pour l'instant, tout le moins selon certains analystes, ça reste à voir, c'est surtout Marine Le Pen, qui d'un coup, c'est assez drôle, une bonne partie des médias se sont entichés d'elle, comme si elle était soudainement respectable par effet de contraste avec Zemmour l'infréquentable. Donc on voit des médias de gauche qui finalement célèbrent la modération de Marine Le Pen comparée à Zemmour. Donc on se dit, bon d'accord, ça c'est, ils sont en train de s'emmêler dans leur pinceau. Pour Madame Pécresse, qui est une femme de qualité, qui a réussi à c'était pas elle la favorite de la course chez les Républicains, elle réussit à s'imposer. Eh bien, donc Zemmour aura mis des thèmes dans la campagne dont elle s'est emparée aussi. Mais le problème de Mme Pécresse, c'est qu'elle est plus ou moins à l'aise avec ces thèmes-là. Donc, elle doit, puis c'est le problème des Républicains en ce moment. C'est que la politique française en ce moment se départage en trois grands pôles. Il y a le pôle de gauche, on pourrait dire autour de Mélenchon et Jadot, donc écolo, décolonial, multiculturel, etc. Il y a le pôle centriste, macroniste, mais qui est aussi un peu le parti de l'ordre avec la bourgeoisie, c'est Macron. Et il y a le pôle national, donc soit national conservateur avec Zemmour, national populiste avec Marine Le Pen. Et à travers tout ça, il y a la droite classique qui, elle, est un peu écartonnée entre une partie de la bourgeoisie ou des cadres qui veulent aller vers Macron, qui spontanément iraient vers Macron, puis une partie de la base qui est plus tentée vers les idées zémouriennes. Donc comment réussir à tenir ça ensemble? La situation de la droite classique est assez compliquée en ce moment. On le voit d'ailleurs avec celui qui a fait le deuxième tour avec Mme Pécresse, c'est Éric Ciotti, qui lui a dit dans un deuxième tour Zemmour-Macron, je vote Zemmour. Et Mme Pécresse dit dans un deuxième tour Zemmour-Macron, ben, il n'y a pas d'ambiguïté pour elle, c'est... Elle est plus Macron-compatible que Zemmour-compatible. Donc, comment tenir ça ensemble? C'est la difficulté de la droite classique.
Non, c'est une analyse extrêmement intéressante. Mathieu, tu devrais être commentateur à la télévision française. C'est ça que tu devrais avoir.
J'y pense. Ça impliquerait que je m'installe là-bas. C'est compliqué.
Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bye.
Bonne journée. Bye-bye.